Bonjour Dorit, enchanté, merci beaucoup d'être là.
Hello, merci de m'inviter, c'est un plaisir.
L'idée bon, c'est de te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore.
Alors brièvement, je te garantis pas parce que j'ai beaucoup d'activités. Alors, je suis ghostwriter, donc j'écris les publications LinkedIn des chefs d'entreprise et des dirigeants sur des thématiques marque employeur, donc la culture d'entreprise, le management bienveillant, le recrutement inclusif, la diversité et l'inclusion. Je suis créatrice de contenu sur LinkedIn, j'ai plus de 70 000 abonnés sur les mêmes thématiques et beaucoup d'impact social aussi. C'est très important pour moi d'essayer de libérer la parole sur des sujets comme le harcèlement au travail, le harcèlement scolaire ou d'autres. Je suis aussi autrice, j'ai écrit le livre de formation LinkedIn Boost ta visibilité aux éditions Vibert, groupe Albin Michel. Je suis chroniqueuse télé, je suis animatrice d'émission, j'ai un podcast avec le magazine Management et Capital qui s'appelle Remu Manage et je suis aussi marraine d'Asso, donc je suis marraine de la fondation Le Refuge qui héberge et qui protège les jeunes LGBT+ qui sont mis à la rue par leur famille. Et je suis marraine de Moemo de femmes qui luttent contre les violences faites aux femmes. La présentation est très très longue, je le sais. C'est pas mal.
C'est hyper intéressant. Tu dors pas beaucoup.
Non.
TDA ou...
TDAH.
Avec hyperactivité ou pas forcément, non, c'est juste t'aimes bien...
Bah en fait, c'est une vraie question. Je me suis jamais fait diagnostiquer, mais j'ai des gros problèmes d'attention et de concentration. Donc sincèrement, ça ne m'étonnerait pas du tout. En fait, moi j'ai un problème, pour en avoir parlé avec des potes qui sont TDAH, ils se reconnaissent dans ce que je dis, c'est que je fonctionne beaucoup dans l'urgence, tu vois. C'est-à-dire que tu vas me dire que j'ai une heure pour faire une prod de ouf, t'inquiète pas que je vais le faire. Par contre, la même prod, si tu me dis que j'ai la journée, je vais trop me reposer sur mes lauriers. Et un papillon... Ah bah tiens, je vais écouter telle musique. Ah bah tiens, il se passe ça dans la rue. Je vais regarder mon téléphone, les réseaux. Et du coup, je bifurque super vite. Donc, il paraît que c'est assez typique. Mais à vrai dire, j'en sais rien. Je suis moi avec, avec mes problèmes de concentration.
On va revenir par rapport au podcast. Hein, donc, on revient un peu dans l'enfance, dans la période scolaire. Et donc, si tu veux bien nous raconter des anecdotes, des souvenirs que tu as d'école, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, mais... Voilà.
Bah, l'école, c'est l'échappatoire que j'avais par rapport à ma mère, parce que j'ai un vécu perso qui est très compliqué. J'ai été une enfant battue. Et voilà, c'est vrai que j'étais une très bonne élève jusqu'à mes 13 ans. Donc ça, j'y viendrai après. Mais en tout cas, moi, l'école primaire, c'est un excellent souvenir. Je me souviens des prénoms de mes maîtresses. Et notamment de quelque chose qui m'a un peu transformée. C'était tous les jeudis, Madame Tarek, ma maîtresse de CE2, donc j'avais 8 ans, elle nous passait des histoires sur des cassettes, l'époque bénite des cassettes. Les radiocassettes à l'ancienne, là, qu'est-ce que c'était stylé. Et on devait dessiner l'histoire. Donc, c'était des histoires un peu des dinosaures, des dragons, parfois un peu paranormales, des sorcières. Et on dessinait et elle passait, elle regardait ce qu'on faisait. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui à quel point ça me transportait et ça a travaillé mon imagination. Donc, voilà, j'adorais apprendre. J'étais une enfant hyper curieuse. Et puis, l'école, les cartes Pokémon, les Diddle, enfin, tu vois, les billes, mon époque, c'était incroyable. Mais malheureusement, ça n'a pas toujours été comme ça parce que je suis passée justement de l'élève qui adorait participer en classe, qui prenait un plaisir fou à faire des exposés. Je me souviens un jour, justement, en CE2, j'avais fait un exposé sur les abeilles. J'avais grave préparé mon truc et pourtant, j'ai un peu la phobie des abeilles, mais je sais pas, j'étais à fond dans le sujet à ce moment-là. Et puis, je suis passée de cet élève-là à phobie sociale. Du fait qu'à partir de 13 ans, donc du collège, j'ai été harcelée à l'école. Il y a un mec qui s'appelle Ange, qui m'a élu Miss Moche de la classe devant tout le monde, qui a traversé toute la classe pour me mettre la couronne de Miss Moche sur la tête. Et le prof était devant moi, il a rien dit. Et depuis ce jour-là, pendant 15 ans, j'ai développé une phobie sociale, c'est-à-dire que j'étais incapable de parler devant un groupe en espace fermé. Ça me provoquait des crises d'anxiété terribles. Alors, c'était valable en soirée avec des potes, donc devant 4-5 personnes, juste prendre la parole et avoir tous les yeux rivés sur moi. Ça me rappelait ce moment-là. Je faisais un transfert sur la salle de classe et c'était horrible, mais c'était aussi valable au taf parce que j'ai été directrice, j'ai été manager et de faire une réunion d'équipe avec 4-5 collaborateurs qui me regardent pendant que je prends la parole en espace fermé dans une salle, c'était terrible pour moi. Donc pareil, je le faisais, mais dans la douleur et dans la souffrance. Et Dieu merci, j'ai guéri de ça grâce à la télé. Donc quand BFM Business m'a proposé d'être chroniqueuse, j'ai failli refuser parce que pour moi, je n'en étais pas capable. Pour moi, la phobie sociale, sociale allait ressurgir. Et puis, je me suis dit, bah, de toute façon, tu vas pas y arriver. Donc, vas-y, tu vas te foirer. Donc, foutu pour foutu, au moins, t'as rien à perdre. Et bah, je l'ai fait. Et à la fin de l'émission, l'animatrice, elle m'a dit, bah, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Alors que pas du tout. Et Dieu sait à quel point je reviens de loin. Et puis, de fil en aiguille, tu fais des conférences, tu fais de plus en plus de plateaux. Et ça m'a bien pris, par contre, un an et demi d'arriver réellement à monter sur scène ou sur un plateau et de ne plus me dire avant, est-ce que tu vas réussir à aligner deux mots sans faire un blackout et sans être paralysé. Aujourd'hui, j'arrive en plateau, le producteur il fait le décompte 3, 2, 1 pour dire qu'on est dans les conditions du direct. À deux secondes près, je chante Tu m'oublieras de la Rousseau. Quoi. Mmh. Donc aujourd'hui, Dieu merci, vraiment, je suis guérie et libérée. Mais l'école a double tranchant pour moi, réellement.
Et donc, ces situations sont arrivées plutôt en primaire, t'as pas spécialement vécu, c'est plutôt arrivé sur le collège.
Ouais, en primaire, alors légèrement, je veux pas minimiser du tout le harcèlement scolaire, mais je l'ai pas vécu non plus comme un traumatisme. Ou en tout cas, je n'en ai pas l'impression. Quand j'avais 6 ans, j'avais pas mal de surpoids du fait que ma mère ne s'occupait pas de nous. Notre petit déjeuner à ma sœur et moi, c'était des bonbons, des chips. On faisait vraiment ce qu'on voulait. Donc moi, j'ai le souvenir à 6 ans qu'il y avait beaucoup d'enfants qui me traitaient de grosse vache et que ça me faisait quand même du mal. Mais ça ne m'a pas empêché d'être l'enfant joyeuse que j'étais à l'école, d'aimer les exposer, de participer en classe. Vraiment, le côté où j'avais envie de disparaître, je rasais les murs et je priais chaque jour que Dieu fasse qu'on ne me voit pas. Je m'habillais tout le temps en noir, je me cachais derrière mes cheveux et je me mettais dans un coin de la classe collé au radiateur. Je voulais vraiment mais disparaître. C'était à partir de mes 13 ans.
Mmh. Le fameux ange.
Le fameux ange, ouais, qui n'était pas du tout un ange. Un démon.
Moi, je m'appelle Guillaume Villain.
Oui, j'ai vu, ça m'a fait rire. Enfin, ça m'a fait rire. Je me suis dit, tu vois, il y a des noms de famille comme ça où tu peux catégoriser des gens alors qu'en fait, bah, t'es adorable et t'es pas du tout vilain, quoi.
C'est prédestiné à te faire harceler à la cour de récré, là, tu vois.
Mais tu l'as vécu, toi, d'ailleurs, par rapport à ton nom de famille ?
Les moqueries, oui, mais il n'y avait pas de récurrence, il y avait pas, on n'était pas en vraie situation de harcèlement. Enfin voilà, il y a deux, trois personnes à chaque fois, la première fois qu'ils entendent le nom, ils rigolent. Mais
ouais, ça passe pas, vite au-dessus.
Ça passe, oui. Donc pour moi, c'est pas cette partie-là qui m'a impacté. Top. Par rapport au développement et au blocage, cette phobie, en fait, elle t'a empêché d'aller à l'école carrément ou t'arrivais à passer au-dessus, à quand même y aller? Comment ça fonctionne?
Alors, j'avais, entre grosses guillemets, la chance, c'est horrible à dire, mais d'avoir une mère démissionnaire. C'est-à-dire que à la première occasion venue, elle me faisait manquer le collège pour m'occuper de ma sœur. Moi, j'étais la mère de ma mère et j'étais la mère de ma sœur. Et du coup, de ce fait, j'allais déjà peu au collège à partir de là. Et de moi-même, je ne voulais plus y aller. Donc, en fait, à partir de là, j'avais, que ce soit au collège et au lycée, les avertissements d'absence à tous les trimestres, quasiment. Et les avertissements de travail aussi, forcément, parce que c'est pas là, tu peux pas bosser. Donc, moi, je ne voulais plus y aller. C'était un enfer. Et à la même période, j'ai découvert Skyblog. Donc, c'était ça, mon échappatoire. C'était de me faire des amis virtuels parce que j'avais peur des gens dans la vraie vie. C'est ça qui est ouf, c'est que je pense que les gens me voient aujourd'hui un petit peu shy sur les plateaux télé, la meuf un peu excentrique, limite à Fida Turner et tout. J'ai clairement pas du tout été comme ça dans ma vie tout le temps et il y a eu un énorme process mental pour me libérer et être la personne que j'avais envie d'être à l'intérieur de moi. Mais non, j'étais une enfant très 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 inhibée, une ado dont t'avais pas plus discrète que moi, hein, réellement. Hein. Aujourd'hui, c'est ça qui est drôle, c'est que tu vois tous les tatous et tout. C'est comme si en fait t'avais la partie en moi qui dormait et que je voulais justement éteindre, qui était en veille et qui aujourd'hui se révèle complètement, quoi. Et c'est ça qui est beau finalement dans le message.
Mmh, clairement. Par rapport à la suite, donc le passage lycée, etc., comment t'arrives à raccrocher
Bah, le lycée, j'y vais très très peu et j'ai le souvenir de moi qui passe toutes les récrés avec mes bouquins. Donc je faisais pas spécialement d'efforts non plus pour m'intégrer parce que pour moi c'était une épreuve d'aller parler aux gens.
Un risque.
J'étais pas à l'aise en fait. Et c'est très spécial. Tu vois des petits clans qui se forment, tu vois des gens qui sont pas du tout dans ta mentalité. En fait, moi j'ai toujours été une enfant et une fille très sensible et un peu dans mon monde imaginaire. Et on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. C'est pas condescendant ce que je dis, mais on n'avait pas les mêmes préoccupations. Et je sais pas, je me sentais vraiment pas en phase avec les gens de mon âge. Donc naturellement, j'avais tendance à me replier sur moi-même. Donc je passais mes récrés avec mes bouquins, le temps où j'y allais. J'ai le souvenir que les exposer ou participer en classe, c'était toujours pareil. C'était un enfer sur terre pour moi. J'avais la voix qui tremblait. Dans ma tête, en fait, j'imaginais toujours que les gens se moquaient de moi. Mmh. Parce que, encore une fois, je faisais le transfert de ce qui s'était passé quand j'avais 13 ans. Pour moi, le regard des gens était forcément malveillant. Et ça a aussi déclenché un regard sur moi-même qui était très dur. J'ai toujours eu un regard très dur sur mon corps, sur moi-même, sur ce que j'accomplis. Et encore une fois, ça a été très long à déconstruire pour reconstruire une image beaucoup plus positive de moi-même. Mais non, j'ai des très mauvais souvenirs du lycée. C'est pas une bonne époque pour moi.
Et ton isolement à la récré, tu le percevais comment? Enfin, c'était normal pour toi? Ou alors, oui, il y avait de la tristesse ou
Non. Non, c'était normal. Non. Et en fait, ma ressource sociale, je l'appuisais vraiment de Skyblog. Littéralement, Skyblog m'a sauvée. Parce que ça m'a prouvé aussi que je pouvais me faire des amis. Déjà, d'une part, parce que je me suis créé des vrais amis. Il y a Clémentine, qui est une amie que je connais depuis 13 ans, depuis 2011, qui vient chez moi là, à la fin, en mars, mi-mars. Donc, ça prouve bien que la barrière des réseaux, elle se franchit aussi dans la vraie vie. Et ça m'a prouvé aussi que j'avais de la valeur dans ce que je fais, parce que sur Skyblog, j'ai été élue 3 fois Blogstar sur chacun de mes blogs. Donc voilà, j'avais 3 blogs. Et j'ai été élue par la plateforme et par les internautes. Donc ça, c'est une super reconnaissance quand t'as 16 ans, que t'as pas du tout confiance en toi, que t'as l'impression que les regards sur toi, c'est forcément des regards moqueurs. Bah, tu te dis, en fait, t'as de la valeur, t'as des gens qui t'apprécient, t'as des gens qui prennent de tes nouvelles. Et ouais, franchement, je te jure que si j'avais pas eu Skyblog, je sais même pas si je serais en face de toi pour te parler, parce que c'est même ça qui a été révélateur ensuite, après une grosse salve de job alimentaire, de me dire, en fait, peut-être que ce que j'aime faire, et là où il faudrait que je retourne, c'est la communication digitale, parce que là où j'étais vraiment heureuse dans ce que je faisais, c'était quand j'étais sur Skyblog. Et c'est ça qui a fait que j'ai fini sur LinkedIn pour chercher un boulot là-dedans et tout. Skyblog, pour moi, ça a été vraiment le moment charnière de ma vie, quoi.
Énorme. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Skyblog, t'es à l'écrit, comment ça fonctionne?
Alors Skyblog, c'est des blogs via Skyrock, donc plutôt les gens connaissent la radio généralement, et tu pouvais faire tout ce que tu voulais dessus, soit des blogs sur ta vie, soit des blogs sur les chevaux, sur des films, sur la musique, et forcément tu fais des rencontres parce que c'est un côté communauté, les gens te laissent des commentaires, ils likent tes posts, et moi j'avais un blog où je publiais mes bandes dessinées, un blog où je publiais des poèmes et des textes philo-psycho, parce que c'est une de mes passions, ça m'a jamais quitté, et un blog où je publiais mes chroniques humoristiques, donc parce que je suis quelqu'un qui aime bien l'humour, les punchlines, le sarcasme, l'ironie, tout ça, donc je mettais un petit peu en parodie ma vie, et ce qui est drôle, c'est que quand je suis arrivée sur LinkedIn, je me suis dit, en fait, j'ai envie de retrouver un peu ces 3 univers mêlés sur mon LinkedIn, et c'est ce que je dis en rigolant à chaque fois, c'est que depuis 2 ans, je fais des trucs cool grâce à un réseau que je prends pour Skyblog, quoi. C'est ça qui est ouf, alors qu'à la base, c'est un réseau pro, et c'est franchement, c'est génial, parce que à l'époque, si tu m'avais demandé de choisir entre les 3, j'aurais pas pu, parce que chacun correspond à un pan de ma personnalité. Je suis autant la meuf philosophique que la meuf drôle, que la meuf créative. Donc j'ai pu exprimer tout ça que je ne pouvais pas exprimer dans la vie avec les gens. Et la force des réseaux, c'est aussi ça. C'est pas que du négatif, c'est important de le dire.
C'est sûr. Et donc, tu te sentais différente et, et en même temps, t'as déjà eu de la formation, en fait. C'est une bulle d'oxygène plus de la formation, enfin de l'auto-formation.
Complètement.
Qui ont développé déjà plein de compétences que tu utilises encore aujourd'hui.
Ouais. Non, mais totalement. Je suis totalement autodidacte. Et après, j'ai toujours aimé écrire. Pour le coup, avant que je sois harcelée, j'étais première de la classe en français dans toutes les classes. Et en rédaction, régulièrement, les profs, ils lisaient mes rédactions en classe en exemple. J'ai toujours aimé ça. Je voulais, parmi autre chose que je rêvais de faire quand j'étais petite, je voulais être écrivaine. Donc, j'ai toujours eu ça en moi aussi.
Cool. Donc, t'as eu ces défis, on va dire, sociaux. T'as eu le parcours, donc lycée un peu compliqué. Et donc, après, t'enchaînes, tu pars, après, tu termines avec le bac. Enfin, comment ça se passe, en fait, final?
En fait, ça a suscité beaucoup de jalousie parce que, comme je te dis, j'allais vraiment surtout au lycée. Je n'allais jamais au lycée. On me voyait une fois toutes les morts d'évêques. Et 15 jours avant... Alors déjà, quand j'avais 16 ans, la conseillère d'orientation, elle m'a dit qu'il faut absolument que je redouble parce qu'elle m'a dit « Vous n'aurez jamais votre bac l'année prochaine, c'est impossible avec vos résultats et tout. » Moi, j'ai refusé de redoubler. Et au bac de première, parce que du coup, tu passes quelques épreuves, en tout cas à mon époque, tu passais quelques épreuves en première, j'avais eu 14 en français, je ne m'étais pas réveillée en SVT. Donc du coup, j'ai dû tout repasser. Là, j'ai eu 9 en français, ce qui est une note que je n'ai jamais eue de ma vie sur un sujet pourtant que j'aime faire aujourd'hui, c'est la poésie. Mais la poésie au sens qu'on l'entend en français, c'est juste... moi, ça me parlait pas du tout. Enfin, c'était chiant. C'est vachement de process et tout. Bref, donc j'ai eu 9. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'année d'après, du coup, où j'ai passé toutes les épreuves, j'ai eu 11 75 au bac. Donc, c'est-à-dire que si je m'étais réveillée en SVT, j'aurais eu la mention. J'aurais eu la mention assez bien. Sauf que je me suis mis un gros coup de collier 2 semaines avant parce que comme j'allais jamais en cours, je savais même pas ce qui s'était passé pendant l'année. Et j'ai emprunté des annales à la bibliothèque. Et en fait, moi, j'ai une mémoire qui est très, très, très compliquée. C'est la pire, je pense, c'est la mémoire du par cœur par l'écriture. C'est-à-dire que la mémoire auditive, je l'ai pas. La mémoire... Enfin, je sais écouter les gens. Souvent, les gens, ils me disent « Putain, c'est ouf, tu te rappelles de ce que je t'ai dit ?» Alors que c'était il y a longtemps, c'était un détail et tout. Mais c'est vachement fluctuant et aléatoire. Mais j'ai la mémoire par l'écriture, c'est-à-dire que je vais... J'ai besoin comme une punition, tu vois. Il y a peut-être quelque chose à comprendre de ça, mais j'ai besoin d'écrire, réécrire un texte en boucle pour que ça s'imprègne dans mon cerveau. Donc j'ai littéralement vécu 15 jours d'enfer où toutes les matières, je devais réécrire. Et c'est comme ça que j'ai eu mon bac. Et du coup, bah coucou la conseillère d'orientation, j'ai eu mon bac, je suis passée à ça de la mention que j'aurais dû avoir. Et clairement, quand je suis allée voir le tableau de résultats, ma mère était là et... Je pense que j'aurais pris beaucoup plus cher si ma mère n'avait pas été là. J'avais tous les gens de ma promo, je les entendais parler, mais doucement, parce que voilà, ma mère, c'est quelqu'un, elle est impressionnante, tu vois, elle fait peur. Je les entendais se dire entre eux, non mais ça c'est une blague, les gens ils vont jamais en cours et ils ont leur bac alors que nous on va au rattrapage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie. Faut pas avoir le seum comme ça.
Et là après t'enchaînes, tu pars sur du supérieur ou t'enchaînes, enfin il y a 2 secondes t'avais parlé de t'enchaîner des jobs alimentaires. Enfin,
ouais. Alors ouais, en fait, comme j'ai toujours rêvé plus ou moins d'être écrivaine et que je suis curieuse de tout, j'ai toujours encore une fois été une enfant très curieuse, je voulais être journaliste, c'était vraiment mon rêve. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui je suis assimilée journaliste et d'ailleurs je vais faire la demande pour vraiment avoir la carte de presse et tout, sans le diplôme qui va avec, c'est incroyable. Donc je me suis inscrite en Infocom, information et communication, à Nice, parce qu'entre temps on a quitté Alfortville, donc le 9-4, et on est allé dans le sud. Et j'ai pas pu continuer mes études parce que ma mère m'a mis à la rue. Donc, au bout de même pas un an, j'ai dû trouver un taf alimentaire et j'ai continué comme ça. Mais pour être extrêmement honnête avec toi, même si ça s'était pas passé comme ça, je pense que j'aurais arrêté quand même les études parce que ça n'est pas fait pour moi. Là où on peut reparler des traits du TDAH, c'est que j'y arrivais pas en fait. J'avais pas de capacité de concentration. Les profs y parlaient, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Et j'ai un énorme problème, moi, dans la vie, c'est que je fonctionne au charisme des gens. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens de Madame Parini, qui était la prof de psycho des organisations en Infocom, qui était une femme d'un charisme phénoménal. Je me levais à 6 heures pour me faire 2 heures de train, parce qu'on habitait à Cannes-la-Bocca, c'est jusqu'à Nice, c'est pas tout près, pour assister à ses cours à 8 heures. Et c'est le seul cours où j'étais capable d'aligner des trucs au partiel. Le seul. Parce que tout ce qu'elle disait, la meuf, elle pouvait te faire un cours sur les raviolis, que ça allait être passionnant. Mais derrière, elle avait fait aussi des formations de PNL, psychologie neurolinguistique, où tu sais capter l'attention de l'auditoire, tu sais occuper l'espace et tout, et ça se sentait. Et ça, c'est dangereux parce que tout le monde n'a pas cette capacité-là, tout le monde n'a pas ce charisme-là. Et surtout, quand tu fais des études, tu peux pas te permettre de sélectionner les profs que tu vas écouter et pas écouter. Et moi c'est, en fait, c'était au-delà de ma volonté, je ne pouvais pas, en fait. Je ne pouvais pas, t'as pas de charisme, je ne comprends pas ce que tu dis. Du coup, j'étais complètement à la rue au niveau études, quoi.
Et donc, après, pour te retourner, tu parlais d'un sujet, la carte de presse sans avoir le diplôme, ça me parle, parce que voilà, quand on est curieux, il y a beaucoup de métiers qui nous intéressent, on a envie de toucher à plein de choses, et des fois, on est coincé par le diplôme, justement, alors qu'il y a plein de gens hyper compétents dans plein de choses, mais comme ils n'ont pas le diplôme, ils ont le syndrome de l'imposteur, ou ils n'osent carrément pas se lancer parce qu'il y a vraiment des peurs qui sont bloquantes. Toi, là, à cette époque-là, tu avais déjà une petite vision de ce que tu voulais, ou tu étais coincé aussi par ce truc de se dire « Merde, j'ai pas de diplôme, qu'est-ce que je fais ?»
Après la fac, tu veux dire ?
Oui.
Non, moi, je me disais, écoute, déjà, là, t'es à la rue. Trouve un taf, n'importe lequel, déjà, t'as de la chance, en fait. Parce que sans expérience, sans diplôme, on t'ouvre pas les portes. Donc, je me suis laissée porter de job alimentaire en job alimentaire pendant quasiment 10 ans, en fait. Hein. Et je me disais que je pouvais faire que ça. Et c'était OK, parce qu'à un moment, quand tu te résignes, tu te dis, c'est pas si mal. Tu vis pas comme une reine, mais t'as de quoi payer tes factures, t'as de quoi payer ton loyer. Il y a toujours pire que soi. Donc, tu te dis pas forcément non plus que t'as un potentiel pour faire plus que ça, parce que t'es sur l'autoroute que je pense beaucoup de gens connaissent, où t'as ton quotidien et t'as ce à quoi tu penses prétendre. Et le reste, tu te dis que c'est pour les autres, parce que tu viens pas de la bonne classe sociale, parce que t'as pas les diplômes, parce que t'as pas la bonne expérience. Juste à un moment, t'arrives à l'aube de tes 30 ans. Et tu te dis, mais putain, j'ai jamais kiffé, j'ai jamais été heureuse réellement, professionnellement, parce que il n'y a pas de sous-métier et j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Mes meilleurs amis aujourd'hui, c'est quasiment que des gens que j'ai rencontrés au taf. Mais tu te dis quand même que tu as plus de compétences que pour être caissière, vendeuse et que tu as le droit peut-être de rêver. Donc c'est comme ça que je suis revenue à la communication digitale, parce que à l'aube de mes 30 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux faire en fait de ta vie? Et je suis revenue à Skyrock dans mes souvenirs. Et c'est de là que j'ai tendu la perche à LinkedIn, parce que personne voulait me donner ma chance sur les sites de recherche d'emploi classiques, Indeed, Monster et tout, parce que pas d'expérience, parce que pas de diplôme. Et c'est là où tu vois la force de la personnalité et du personal branding et des réseaux sociaux. C'est que suite à un post où j'ai dit qu'on n'en a rien à foutre qu'un candidat, il ait des tatouages, des piercings, les cheveux colorés, que ce qui compte, c'est les compétences et le potentiel d'une personne, j'ai reçu plus de 200 propositions d'emploi. Et le post a fait plus de 2 millions de vues, plus de 23 000 likes. Et de là, j'ai même pas été chargée de com. J'ai directement été directrice artistique et communication digitale. Et tu te dis, c'est la beauté du truc. À tout péter, j'ai pas fait 200 entretiens, clairement. J'ai dû en faire une cinquantaine. Parce que même moi, j'avais pas le temps. Bah, on m'a pas demandé mon CV, on a dû me le demander deux fois. Tu vois, tu effaces le côté stéréotypé, académique et normé de la France, et on part dans un côté vachement soft skills, savoir-être. Et moi, c'est ce que je défends aujourd'hui, et c'est ce que je voudrais dire aux gens, en fait. Et quand on arrive à là, c'est juste trop bien.
Comment t'estimes ça? C'est le bol avec l'algorithme, ou justement le fait de ne pas avoir eu de bol, de pas chercher? Enfin, j'ai revu une interview de toi où tu parlais... de maudit comme ça, enfin, parce que si t'enchaînes quelques soucis, après tu peux te dire ouais, en fait j'ai pas de bol. Là en fait c'est ce truc là, tu te dis ouais, j'arrive pas à trouver un boulot via une agence intérim, je tente le tout pour le tout sur LinkedIn et puis on voit comment ça s'est passé quoi.
Ouais mais c'est ça, je me suis dit en fait c'est ta dernière chance, en sachant que c'est un réseau que j'aimais pas, parce que pour moi c'était le réseau patriarcal avec Bernard, 58 ans, qui te donne des conseils à toi, femme, qui comprend rien, pas fun, tout le monde commence ses posts par cher réseau, limite cordialement à la fin, moi je suis une meuf fun, tatouée, je me suis dit ouais on va pas me réserver le meilleur accueil quoi, et puis même moi j'ai pas trop envie de traîner là-dedans et tout, donc je me suis dit je vais prendre un parti pris fort, je vais être moi-même, complètement sans condition, sans concession, donc clairement pour répondre à ta question, à mon avis, qu'est-ce qui a fait que ça a fait la diff, c'est que je pense que j'ai été précurseur de quelque chose et que je suis arrivée aussi au bon moment. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, des gens qui cassent les codes réellement sur LinkedIn, il n'y en avait pas ou très 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 peu et c'était très léger. Et l'humour sur LinkedIn, il n'y en avait pas. Moi, c'est quelque chose qu'on me dit tout le temps en interview, c'est que j'ai été précurseur de l'humour sur LinkedIn. Donc t'as une meuf, elle arrive et elle dit « je suis tatouée et alors ?» Je vous fais des montages sur la Reine des Neiges, sur des trucs complètement cons, complètement what the fuck, loufoque, tout ce que tu veux. Genre, ils sont là, ils comprennent pas. Je montre mes tatouages, j'arrive, je dis que je suis lesbienne. Enfin, tu vois, j'ai cassé beaucoup de codes d'un coup. Et bon, forcément, il y a des gens qui n'ont pas compris, mais c'est la vie, on peut pas plaire à tout le monde. Et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Mais j'ai tout de suite eu une audience forte qui m'a dit « putain, mais merci !» Parce qu'on commençait sacrément à se faire chier quand même ici. Et je pense aussi que c'est cet effet-là. Et le fait aussi de porter des messages qui sont des messages d'impact social universel. Les compétences avant l'apparence, c'est quand même des messages puissants. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est des prises de parole qu'on ne voyait pas du tout sur LinkedIn. Et c'est là où j'ai vu à quel point il y avait une portée sur ce réseau qui était possible et à quel point il y avait des gens qui pensaient des choses qu'ils n'exprimaient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils s'enfermaient dans leur poste. Bonjour, je suis ravie de vous annoncer que j'ai assisté à cette réunion à 17h. Oui, mais tout le monde s'en fout, Bérangère, tu vois.
Là, t'as cultivé, enfin, t'as mis en avant tes différences alors que personne... oser mettre leur différence, en fait. Parce que c'était hyper neutre avant.
Ah oui, mais c'est ça, c'est vachement académique comme réseau. Donc moi, j'arrive, je suis très, très authentique dans ma façon de parler, dans ma façon de me présenter. Donc, ça surprend. Je pense, après, c'est moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas indifférent. Tu m'aimes pas, mais il y a une opinion.
Et donc, là, tu passes... on repasse en revue vite fait. Donc, on repart au collège avec, malheureusement, le harcèlement scolaire, ouais. Puis ta phobie qui se développe, etc. Puis tu arrives à sortir de ça. Et là, tu retombes un peu dans du harcèlement, mais plutôt cyber à ce moment-là, puisque Bernard, 58 ans, il y en a pas mal. Ouais. Et est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui se passait par rapport?
Alors, je l'ai bien vécu relativement, et c'est grâce à Skyblog. Parce que quand t'as 16 ans et que t'es surexposé, parce que quand t'es blogstar, j'étais en page d'accueil, comme je l'ai dit, de Skyblog, skyrock.fm, pendant un mois sur chacun de tes blogs. Donc pendant 3 mois, j'étais en page d'accueil. Et tu reçois pas que des messages amicaux, tu reçois aussi beaucoup de jalousie, des gens qui te disent « Ouais, mais moi, ça fait 6 ans que je crée du contenu sur Skyrock, j'ai jamais été blogstar, comment ça se fait que toi t'arrives au bout d'un mois ?» Parce que réellement, au bout d'un mois ou deux, j'ai été blogstar. Ça a été flash. Et en gros, je mérite pas, on m'a dit que je dessinais comme une merde, on m'a dit que je savais pas écrire, on m'a dit que j'étais pas drôle, voilà. Donc à ce moment-là, j'en ai souffert parce que j'avais 16 ans et que c'était tout nouveau pour moi et que ça a été un gros accélérateur à grande échelle. Mais par contre, quand je suis arrivée sur LinkedIn, du coup, j'ai été préparée à ça. C'était pas nouveau pour moi le côté sommelard, les gens qui t'apprennent la vie, etc. Donc le poste où je l'ai mal vécu, c'était le premier, parce que le premier buzz que j'ai fait, c'est pas le poste tatouage. Pourtant, tout le monde ne me parle que de celui-là. C'est un poste que j'ai fait la semaine d'avant, où j'ai raconté une expérience de harcèlement sexuel que j'ai vécue dans une expérience pro, qui a fait plus de 13 000 likes et plus d'un million de vues, où un des premiers commentaires que j'ai eu sous ce poste, c'était un mec, je me souviens encore de son nom, c'est te dire, tu vois, à quel point ça m'a encore marqué, c'est Stéphane, je sais pas si ça se dit Stéphane ou Stéphane, qui me disait que je n'avais pas vécu ça, que c'était du mensonge, qu'il demandait des preuves, que je décrédibilisais toutes les femmes qui avaient vraiment vécu des choses et que je devrais avoir honte de moi.
Premier commentaire sur...
Un des premiers. Ouais. En sachant que c'était vraiment le premier post que je faisais sur LinkedIn où je parlais à cœur ouvert et où je partageais une expérience perso. Donc là, par contre, je l'ai mal vécu parce qu'il s'attaquait à moi, à mon intégrité. Chose qui ne se produirait plus aujourd'hui si j'avais le même commentaire parce que j'ai pas du tout la même vision et la même perception. Mais à ce moment-là, pour moi, il s'attaquait à moi et je l'ai pris personnellement. Et, sauf qu'aujourd'hui, je sais qu'il s'attaque à eux, à leurs espèces de failles narcissiques. Il y a une forme de haine, de colère. Enfin bref, c'est compliqué, c'est profond. Donc j'ai fait la pire chose à faire, c'est-à-dire je lui ai répondu, je suis partie dans une espèce de justification, mais c'est la pire chose à faire. Comme a dit une de mes managers un jour, se justifier, c'est se donner tort. Mmh. Et clairement, en plus, tu perds ton temps, tu perds ton énergie. Et puis, ils ont toujours raison, ces gens-là. Mmh. Tu vas répondre, ils vont même te faire croire que t'es folle et te faire, toi, te remettre en question. Ils vont essayer de te déstabiliser. Il y a un côté très, très pervers. Donc, bref, en plus, c'était interminable et ça te bouffe la tête. À ce moment-là, j'étais mariée, donc la personne avec qui j'étais mariée était dans un pire état que moi. Enfin, c'était vraiment un enfer. Et ça a été dur. Et honnêtement, j'ai failli quitter LinkedIn à ce moment-là parce que je me suis dit « Ouais, mais voilà, c'est exactement pour ça que je voulais pas venir sur ce réseau. Ce genre de mec qui t'apprend la vie, qui est complètement con. » Sauf que mon post est devenu très très rapidement viral et j'ai reçu plus de 1000 commentaires et ouais, j'ai dû avoir peut-être une dizaine de commentaires, pas de ce style mais presque, et moins violents, mais voilà, mais le reste c'était extrêmement bienveillant et j'ai eu énormément de messages de remerciements de meufs du coup qui m'envoyaient leurs propres témoignages et de me dire bah merci d'en parler parce que moi c'est des choses que j'ai enfouies en moi et que j'ai jamais voulu faire ressurgir. Et du coup bah je me suis dit en fait merde, bah continue à libérer la parole parce que tu fais du bien à des gens. Et après, je l'ai bien vécu. Donc, quand dans le post-tatouage, j'ai reçu plus de 200, 300 commentaires, tu ressembles à une porte de toilette avec tes tatouages, on dirait un mur de graffiti. Moi, chef d'entreprise, je n'embaucherai jamais un candidat tatoué. De gens qui ne sont pas chefs d'entreprise, mais aussi de gens qui sont chefs d'entreprise. Donc ça, c'est absolument lunaire parce que sur LinkedIn, tu as le nom de ton entreprise qui est affiché dans ton titre. Ça, tu vois, c'est incroyable parce que moi, je suis dans la marque employeur aujourd'hui. Donc la marque employeur, c'est l'image de marque, la notoriété d'une entreprise pour attirer des talents et pour fidéliser les talents déjà présents dans ton entreprise. Mais elle a quelle gueule ta marque employeur quand en tant que chef d'entreprise sur LinkedIn, tu dis « Coucou !» Je fais de la discrimination et j'en suis fière. Mais qui a envie de bosser pour toi, en fait? Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que je les ai pris pour des cons. Et c'est un format qui a fait mon succès beaucoup sur LinkedIn aussi. J'ai créé le carrousel des haters. C'est-à-dire que ces gens-là, je leur répondais avec des punchlines. Donc, je mettais des réponses à la con. Par exemple, des citations de Jean-Claude Van Damme. Un biscuit, ce n'est qu'un biscuit, ça n'a pas de spirit. Il faut faire attention à l'eau, car bientôt, il n'y en aura plus. Des trucs, ça n'a rien à voir. Je mettais des recettes de crêpes, je mettais les paroles de Tu m'oublieras de La Rousseau, les paroles de la musique de Star Academy, des trucs qui n'ont aucun sens. Je mettais aussi des punchlines style Il fait quel temps en Corée du Nord, tu vois. Je screenais le commentaire et ma réponse et toutes les semaines, tous les vendredis après-midi, j'en mettais 5. Un carrousel avec 5 screens. Et ça cartonnait. Et en fait, le message que je mettais en légende, c'était il y a des façons de répondre aux haters, soit ne leur répondez pas, soit bloquez-les, soit bah, vous le faites comme moi, vous leur répondez avec des punchlines, mais dans tous les cas, ils ne doivent jamais vous empêcher de vous exprimer. Vous avez des choses trop importantes à dire. Et moi, ce qui me faisait mal au cœur et pourquoi j'ai créé ce format-là, c'est que à ce moment-là, et c'est toujours le cas, je recevais énormément de messages. Dorit, je vois que t'es pas mal attaquée sur LinkedIn. Et moi, en fait, j'ai plein de choses intéressantes à dire, mais j'ai super peur de prendre la parole, donc je ne le fais pas. Et c'est la réalité, c'est que les headers font peur aux gens. Et moi, j'avais envie de, voilà, d'empowerer les gens à travers l'humour, parce que je pense que ça fonctionne très bien. C'était pas mon idée, ça c'est important de le dire, c'est Julien Doré qui fait ça. Il fait ça assez régulièrement. Il capture les tweets les plus méchants qu'on met sur lui. Et en fait, il met les réponses, il met ça sur Insta, il met ses réponses en punchline et c'est à crever de rire. Et voilà, malgré ça, j'ai quand même porté plainte pour cyberharcèlement fin 2021 parce que... Bah, jusqu'à un certain niveau, on rigole, mais à un moment, on rigole plus du tout. Donc, notamment, c'est sorti du cadre de LinkedIn. Moi, j'ai eu un forum de 4 pages qui a été créé contre moi, avec des screens de mes publications LinkedIn où les gens m'insultaient, disaient que j'étais le cancer de la société, que je méritais de mourir. Donc, j'ai déposé plainte. Je pense que ça a probablement été classé sans suite parce que je n'ai jamais eu de nouvelles. Et voilà, j'ai récemment eu des menaces de mort homophobes aussi, de plusieurs personnes, dont une qui a carrément fait des posts LinkedIn en me citant et en disant qu'il possède un AK-47 et que je devrais faire attention à moi.
Sur LinkedIn ?
Sur LinkedIn, ouais. Il y a une grosse partie de mon audience qui a signalé les posts. Ils ont mis beaucoup trop longtemps à être supprimés. Le compte du mec, il me semble, n'a pas été supprimé, d'ailleurs. Donc, non, mais c'est des vrais sujets. Hein. Et tu vois, ça c'est des niveaux où, pour le coup, non, tu peux pas en rire. C'est pas possible.
Donc, pour résumer, hein, comment tu te traites ? Au départ, donc, en fait, sur ton premier post, là, t'as répondu « chose à pas faire ». Et en fait, après, t'as le recul. Tu te dis « non, on le fait avec l'humour » ou « on répond pas » ou « on bloque ».
Ouais.
Et la quatrième solution, c'est bah là, c'est tellement grave qu'en fait on dépose plainte parce Absolument. Que là t'abuses, quoi, carrément sorti du cadre.
Ah oui, mais même pour l'exemple, en fait, tu dois le faire et en parler derrière, de dire voilà, j'ai vécu ça, j'ai déposé plainte. J'ai eu un article dans Le Parisien, une interview sur ça où je tiens exactement le même discours. C'est que il y a différents niveaux de cyberharcèlement et sont tous graves. On a tous une façon différente aussi, ça c'est important de le dire, de le gérer, de l'intégrer. Moi, je sais que j'ai une amie notamment à qui je pense que je ne citerai pas, qui est une grosse créatrice de contenu, surtout sur TikTok. Elle est extrêmement attaquée sur son physique. Alors elle, c'est absolument lunaire. La meuf, elle va parler de n'importe quoi, du monde du travail ou quoi. On va systématiquement la ramener à son physique. Alors ça, quand t'es une femme, c'est... ça, c'est au petit bonheur la chance, c'est incroyable. Et elle le vit très, très, très mal. Alors que la meuf, elle est sollicitée pour écrire des livres, elle fait des interviews, tout ça, mais ça, c'est décorrélé totalement. Elle en est toujours à le prendre avec beaucoup de violence, en fait. Là où moi, j'en ai réellement rien à foutre. Donc c'est pour dire que ça a vraiment un impact dans la vie des gens, ça fait du mal. Et il faut arrêter de se dire que c'est des créateurs de contenu, point. Non, c'est des humains. Et derrière un écran, il y a des humains. Et vos paroles, elles ont des conséquences. Demandez-vous juste si vous auriez les balls de dire la même chose à quelqu'un dans la vraie vie. Probablement pas. Ou alors, dès que la personne, elle vous retorque 2 ou 3 réparties, vous vous calmerez très très vite, vous feriez pas les fous comme ça derrière vos écrans. Donc je pense que les gens, ils se rendent pas compte à quel point émotionnellement ils peuvent impacter la vie des autres, en fait.
Enfin, est-ce que c'est des gens compétents qui ont juste le melon, ou justement c'est des incompétents, ou peut-être même des ratés? T'as une image type du Bernard 48. Enfin, je raconte n'importe quoi avec le prénom, mais...
Ouais, non mais si, moi en plus je l'appelle Bernard souvent.
Ah ouais.
Vraiment, non mais vraiment, c'est très drôle. Est-ce que tu connais la chanson Patrick de Angèle? Bah, j'invite tout le monde à l'écouter parce que pour moi, c'est exactement comme ça que je vois le haters, parce que c'est une chanson où elle parle des haters. Elle dit « Patrick a 50 ans, il a 2 enfants, il couche moins avec elle qu'elle avec son amant. » Et le refrain, c'est « Patrick a son petit kiff, le soir, il vide sa haine et ses tripes. » En gros, pour oublier qu'il a une vie de merde et qu'il est triste, quoi. Bah moi, je les vois comme ça, vraiment. Parce que tu vois, moi, j'ai pas le temps dans ma vie. J'ai 1 milliard de projets, enfin... Clairement, j'ai viré tous les créateurs de contenu LinkedIn de mon réseau parce que pour moi, c'est un milieu rempli d'ego, très anxiogène et je n'en fais pas partie et je ne veux pas en faire partie. Alors, je suis ambassadrice LinkedIn France, j'ai plus de 70 000 abonnés, donc je fais partie de l'écosystème créateur de contenu. Mais je suis très décorrélée de ces gens-là parce que voilà, pour moi, on n'a pas du tout le même mindset. Moi, je préfère parler d'impact social, là où ça parle de pognon à outrance, on n'a pas le même why. Donc, je les supprime de mon réseau. Et tu as cette solution-là. J'ai pas besoin de faire 50 000 posts à dire lui, je l'aime pas. pas, lui je l'aime pas, lui je l'aime pas parce qu'il est comme ça et tout. Pourquoi faire? Pourquoi tu perds ton temps et ton énergie? Donc pour moi, si t'as du temps à perdre et de l'énergie à perdre, à aller harceler les gens, à t'acharner sur eux, parce que parfois on parle même d'acharnement, où vraiment tu prends quelqu'un en grippe et t'y vas, et ça Dieu sait que j'en ai fait les frais, c'est putain, mais t'as pas de vie et t'as pas de projet et t'as pas d'ambition et t'as que ça en fait, et c'est d'une tristesse abyssale quoi.
C'est un combat dans le vide. Oui, malheureusement, on en voit beaucoup trop souvent.
Oui.
Par rapport après, on va revenir maintenant peut-être sur ton métier de chroniqueuse et du coup, comment tu passes de LinkedIn à Chroniqueuse TV?
Bah, c'est ouf, c'est BFM Business, même pas un mois après que j'ai fait mon post sur les tatouages, il me l'a proposé. Donc, comme je t'ai dit, j'ai failli refuser, au final, je le fais, ça se passe très bien. Je fais ma première chronique où j'emmène en plus la folle, une Pokéball sur le plateau. En fait, je fais un parallèle entre la marque employeur et Pokémon. Il fallait oser le faire sur BFM Business. Aussi, l'animatrice m'a laissé la liberté de le faire. Où en fait, je dis qu'un candidat, c'est comme un Pokémon. Il faut le capturer avec la bonne méthode. Donc, voilà, côté marque employeur, en n'ayant des bonnes, on va dire, pas des bonnes pratiques dans l'entreprise, mais en tout cas, en ayant un package attractif quoi, pour le candidat. Donc voilà, j'ai kiffé. Et puis ensuite, j'ai continué un moment. Et puis, j'ai sorti mon livre sur LinkedIn. Et là, j'ai fait beaucoup de plateaux télé pour la promo de mon livre. Et c'est comme ça, du coup, que dans le cadre de la promo, j'ai fait School Télé, où à la base, j'étais invitée. Et ce qu'il y a d'assez ouf, c'est que pendant cette promo-là, à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, hein, où j'ai fait un plateau, j'en ressortais où on m'a proposé d'être dans l'émission. J'ai été invitée à France Bleu Azur, on m'a proposé d'être chroniqueuse. Bon, j'ai quitté Nice, donc du coup, pas possible. J'ai été invitée chez Bismart pour la promo du livre chez Arnaud Ardoin. À la fin, il m'a dit non, mais toi, il faut à tout prix qu'on parle avec le dirigeant de la chaîne pour que tu sois chroniqueuse ou des trucs ou quoi. Bah, School, c'était ça aussi. À la fin de l'émission, Marjorie Paillon, qui a animé l'école du futur à l'époque, m'a proposé d'être chroniqueuse. Donc, du coup, j'y suis aujourd'hui. Et management aussi. Quand j'y suis allée pour être interviewée à Prisma Media, j'ai discuté avec le rédac chef. Et voilà, il m'a dit la même chose qu'on m'a dit à chaque fois, mais t'es hyper à l'aise à l'oral. Et tu dégages un truc et tout. Et voilà, ça te dirait pas de faire un podcast avec nous, quoi. Et c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui, grâce à la promo du livre, totalement what the fuck, à être chroniqueuse sur School, à avoir mon podcast avec Management Capital. Et donc, c'est de là. Et aujourd'hui, je suis sur d'autres projets. Donc, moi, j'ai deux autres projets. Même quatre en fait, quatre. J'ai un producteur qui m'a repéré, donc j'ai déjà tourné deux pilotes d'émissions. Une émission qui s'appelle Abracadamois, où l'objectif c'est de recevoir des personnalités publiques, de faire disparaître l'image et de faire apparaître le vrai moi, l'émotion et l'enfant intérieur chez les personnalités publiques. J'ai fait ce pilote avec Virginie Guillaume, dont j'ai l'honneur d'être la collègue à School Télé. Virginie Guillaume, je sais pas si ça te parle.
School TV, je connais. Philippines, mais...
Ok, alors Virginie Guillaume, elle a animé La Nouvelle Star et les Victoires de la Musique, et c'était entre autres la porte-parole de la France à l'Eurovision, et après elle a fait beaucoup de théâtre, et c'est une femme d'une humilité incroyable que j'aime beaucoup, c'est ma beauté. elle est formidable. Et donc voilà, premier pilote avec elle, et ensuite ma deuxième émission, ça s'appelle Dorit, faut que je te parle, et là, j'ai une thématique par plateau. L'idée, c'est d'avoir une quotidienne où les gens nous appellent en direct à chaque émission sur des thématiques différentes. Donc, un jour, c'est le harcèlement au travail. Ils vont nous appeler pour partager leur témoignage de harcèlement au travail. Sur le plateau, j'ai par exemple un ou une avocate qui va conseiller la personne sur le témoignage. Un autre plateau, c'est justement le pilote qu'on a fait. Ça peut être les relations toxiques, où du coup, les gens vont nous appeler pour partager leurs anecdotes, leurs témoignages sur des relations toxiques, que ça soit une mère, un père, un mec, meuf, ami ou quoi que ce soit. Et sur ce plateau-là, on avait Isaline Guéraud, qui est psychologue clinicienne, qui est créatrice de contenu. Et on avait aussi Chloé Thibault, qui est journaliste et qui est autrice de plusieurs livres autour des relations toxiques. Et on avait Édouard Joanneau Taylor, le directeur communication actuel du Refuge, la fondation Le Refuge, dont je suis ambassadrice. Et voilà, donc ça, c'est des pilotes existants qu'on essaye de vendre en télé en ce moment avec mon producteur. Et j'ai une autre émission aussi qui va sortir, qui s'appelle Histoire de taf. Donc ça, je te donne une exclue parce que je crois que j'en ai jamais parlé encore. Et c'est un peu comme Abracadamoi. L'idée, c'est de faire ressortir le moi chez les personnes. Sauf que là, on n'est plus sur des personnalités publiques. On est sur des fondateurs, des CEO et des DRH que je vais recevoir. Sans washing.
Énorme.
Et donc ouais, on est sur tous ces projets-là. Et il y a aussi un réalisateur qui m'a proposé de faire un documentaire sur moi, sur mon histoire. Donc on se voit deux fois par semaine en ce moment avec Loïc Coriou, qui est un grand monsieur. Je suis très très honorée. Et il m'a parlé de vendre ce documentaire à Netflix, donc ce que je trouve une dinguerie innommable. Donc voilà, c'est pas mal de choses qui se font, alors que de base, je n'étais pas du tout partie pour ça dans mon parcours de vie, en fait. Et c'est la folie de voir que tu arrives à dépasser, à transformer des traumas pour faire des belles choses et que il faut jamais perdre espoir, quoi.
C'est juste incroyable. Et si tu te voyais à 13 ans, là, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Bah, je me dirais, ne lâche rien, parce que là, actuellement, t'as ta mère qui te traite de pute du matin au soir, qui te tape, tu vas au Resto du Cœur tout le temps, ta vie, elle est merdique, mais continue à lire, beaucoup. Continue à jouer au foot, continue à te mettre dans tes petites bulles de protection, continue de dessiner, c'est ça qui te sauve. Et c'est ça aussi qui fera que tu reviendras à ce côté créatif, artiste plus tard, parce que t'as ça en toi. Et crois-y, tu te perdras un moment en chemin parce que la vie te fera faire certains choix, comme des tafs alimentaires ou quoi, mais il y a des moments où c'est comme ça. Tu te dévies un petit peu de ton objectif, mais tu y reviendras. Reste toujours centré aussi. Reste centré sur tes valeurs, sur ton éthique. Et ça, c'est ça ta plus grande force, c'est de ne pas être comme tout le monde, d'être authentique, d'être spontané, d'être sincère. Et tu ne feras jamais partie de ce monde-là, et accepte-le et n'essaye surtout pas d'en faire partie, parce que ta force, c'est justement d'être l'outsider.
Énorme, ça ferait déjà une super conclusion. mais j'ai envie d'aller un peu plus loin par rapport aux situations de cyberharcèlement, aux situations de harcèlement. Si tu peux, peut-être. Parce que là, on parle effectivement de la petite avec les difficultés que tu as eues, et Dieu sait qu'il y en a eu malheureusement. Et finalement, où tu en es là maintenant avec plein d'opportunités, plein de projets dans la tête, c'est juste magnifique. C'est une super histoire, c'est pour ça que je voulais que tu sois là et c'est trop cool que tu sois là pour la raconter.
Je suis ravie.
Et est-ce que tu as quand même des coups de mou là, entre les deux, où vraiment tu te dis je suis quand même vachement loin, enfin je m'en remets pas, comment en fait t'as terpuisé de l'énergie? Alors je sais que t'aimes bien aussi parler de la thématique de la ténacité, comment tu vas la chercher, quelle astuce tu pourrais donner à ceux qui se disent non mais moi là j'en peux plus en fait.
Vis-à-vis du harcèlement?
Ouais, de la situation qu'ils sont en train de vivre, parce que souvent quand on va loin dans la douleur, on a envie d'arrêter la douleur en fait. Et du coup, comment tu fais pour être tenace et de réussir à sortir la tête de l'eau? Enfin, alors t'as déjà expliqué avec les bulles, hein, c'est déjà ça, mais vraiment essayer de... T'as d'autres astuces encore?
Bien sûr. Alors, il y a deux situations. Il y a le harcèlement scolaire et il y a le cyberharcèlement. Moi, j'en ai jamais vraiment parlé, en fait, du harcèlement scolaire quand j'étais petite, et c'est ce que je ne conseille absolument pas. Ce que je conseille aux personnes qui sont harcelées à l'école, c'est d'identifier un adulte de confiance. Et c'est pas toujours ceux auxquels on pense. Parfois, on se dit, si j'en parle pas à mes parents, j'en parlerai à personne. Et je ne veux pas en parler à mes parents parce que j'ai peur, justement, selon la personnalité du parent, que ça dérape, que ça aille trop loin, que ça ait des conséquences sur moi et qu'en gros, il y ait des représailles. Donc, identifiez vraiment un adulte de confiance qui peut être, justement, si vous lisez beaucoup, le bibliothécaire, si vous vous êtes fait copain avec, je sais pas moi, le buraliste parce que vous allez souvent acheter votre magazine préféré ou quoi, quelqu'un avec qui vous avez vraiment un lien. Il faut verbaliser absolument. Si vous n'avez pas le déclic, et ça s'entend, et il n'y a pas d'injonction, c'est vraiment chacun son rythme. Et l'essentiel, c'est de déjà processer et de se dire, je vis quelque chose qui n'est pas normal et je n'en peux plus, en fait. Et rien que ça, c'est déjà extrêmement courageux et bravo de le réaliser. Il y a le 30-18 et le 30-20 pour verbaliser vraiment sur le harcèlement scolaire. Donc ça, c'est la ligne d'écoute gratuite mise en place par le gouvernement. Et c'est déjà un grand pas et une grande étape de le faire. Derrière, ils orientent aussi. Donc ça, déjà, pour moi, c'est une première solution. Après, il y a... Moi, je pense que la responsabilité pour les parents qui nous écoutent, elle est aussi très grande. C'est la vigilance, en fait, aux signes. Est-ce que votre enfant, il mange moins que d'habitude? Est-ce qu'il est plus taciturne que d'habitude? Est-ce que vous sentez qu'il y a des sautes d'humeur? Et de créer vraiment le dialogue, c'est important. Donc oui, bien sûr, et c'est très, très important, il faut s'adresser aux personnes en souffrance actuelle, mais il faut aussi s'adresser aux témoins et aux personnes spectatrices qui ont un grand rôle à jouer. Moi, j'avais vu un spot de pub de l'équipe de France de foot, les deux d'ailleurs, féminine et masculine, qui disaient harcèlement scolaire, quand on n'est pas la cible, on est la solution. Mmh. Et pour moi, c'est très très vrai en fait. Donc pour le harcèlement scolaire, je pense qu'il n'y a pas d'injonction aussi à dire à des personnes intervenez, défendez-vous. Ça, c'est ce qu'on a trop tendance à dire, c'est ne te laisse pas faire. On n'a pas tous les ressources pour le faire en fait, réellement. C'est une réalité. On ne peut pas demander à un enfant timide d'ouvrir sa gueule s'il ne se sent pas capable de le faire. Donc c'est à ce moment-là de juste se dire j'ai besoin d'aide et les adultes sont là pour ça en fait. Et il y a forcément un adulte bienveillant. Et si l'enfant n'a pas le courage d'aller voir un adulte, identifier un allié. Ça, c'est ce qu'on conseille beaucoup dans le monde du travail, tu vois, par exemple, par rapport au LGBT plus phobie, identifier un collaborateur, un collègue plutôt, qui est un allié potentiel, qui est sympa, hein, tout simplement, avec toi, et où tu te dis qu'il pourra un petit peu faire le médiateur, faire rempart avec les harceleurs. Donc, identifier un camarade sympa et lui en parler. C'est des petites choses, mais auxquelles on pense parfois pas du tout et qui font toute la différence. Et dans le cas du cyberharcèlement, moi, je voudrais vraiment parler de la plateforme Pharos. Donc, ça s'écrit Pharos. C'est la gendarmerie en ligne contre le cyberharcèlement. C'est là-dessus que moi, j'ai porté plainte, justement. J'ai été rappelée très rapidement par un gendarme. Donc, je tiens à dire que c'est très réactif, très efficace. Ils m'ont pas jugé. Et il a été très sympa. Et voilà, ça, c'est une solution pour déjà lancer la démarche. C'est aussi un peu du confort mental, parce que ça peut être difficile pour certaines personnes d'aller physiquement au commissariat tout de suite pour verbaliser. Là, tu as une première étape où tu verbalises à l'écrit. Et ensuite, tu l'oralises. Et ensuite, t'es au téléphone. Et ensuite, t'es convoqué au commissariat. Donc déjà, il y a cette forme de process plus délicat. Voilà, c'est moins frontal. Donc déjà ça. Et surtout, la pire chose à faire dans les deux cas, que ce soit harcèlement scolaire ou cyberharcèlement, c'est se dire, je le mérite, je l'ai cherché, il y a pire, c'est pas grave, c'est de l'humour, ou de toute façon, ça va s'arrêter. Non. Non, non, on ne mérite pas ça, en fait. Et à partir du moment où il se passe un fait, même un fait isolé, ce n'est pas normal. Encore une fois, c'est selon la gravité, selon l'impact de la chose. Mais ça ne se justifie pas, en fait. Et on a tendance, je pense, trop souvent à le faire en se disant... En fait, je pense que psychologiquement, on en a besoin, parce qu'on a besoin de se dire « Non, je ne suis pas en train de vivre ça, ce n'est pas possible. » On ne peut pas se dire qu'on est victime de quelque chose, c'est difficile. Surtout si on a une certaine force de caractère. Ça peut être humiliant, on peut se sentir même sale, mais non, la peur et la honte, elles doivent changer de camp, et c'est ce qu'il faut vraiment se dire.
Énorme. Je t'embauche aussi. Moi, j'ai personne dans l'équipe. Mais...
J'adore.
Top, merci beaucoup. Je crois qu'on va en rester là, c'est juste génial ce que tu viens de dire. Le fait, en fait, ils cherchent des excuses, ils ont un tampon qui est parfois énorme. Enfin, moi, je lis énormément de commentaires, je vois leur tampon et je me dis, mais les filles, là, il faut vraiment vous bouger parce que vous avez votre patience, elle est trop haute, en fait. Votre tampon,
t'as dit
il est
les
trop.
Filles
ouais, enfin, là, j'avais
ah,
dit...
ça veut dire que tu trouves que les filles sont plus harcelées que les garçons, c'est super intéressant.
Non, en fait, je crois qu'en fait, les garçons, ils osent moins en parler encore. Je
ouais, non, mais ça, c'est un vrai sujet. Hein. Ouais, ouais, ouais.
Enfin, et là, c'est parce que j'avais un exemple vraiment en tête. Et cette fille-là, elle se mettait sa zone d'inconfort, elle est vraiment inconfortable. Et pour elle, en fait, cette situation inconfortable était confortable quand même. Et son tampon, il est énorme. Elle arrive à encaisser. Mais tu dis, mais comment on arrive à encaisser autant, quoi? Et c'est vraiment compliqué de lui donner le déclic et la petite force, la petite énergie qu'elle a besoin pour justement aller vers des adultes proches ou vers des personnes de confiance, quoi.
Ouais, ouais, mais c'est difficile. Seul, il y a une forme de honte souvent. Les garçons, c'est peut-être différent. C'est peut-être une forme d'ego, d'orgueil, de dire, c'est vu comme de la faiblesse. Mmh. Je pense que les filles, c'est plus émotionnel. sincèrement. C'est plus le côté honte, peur de déranger.
De décevoir.
De décevoir. Et garçon, je suis censée être fort. Tu sais, cette image de la masculinité toxique, je suis censée être fort, je ne peux pas être une victime.
C'est clairement ça.
Ça les enferme dans ce silence qui est très dangereux et très, très destructeur et qui peut conduire au suicide, clairement. Qui conduit au suicide.
Paul, il y a un boxeur là, hein, qui avait parlé, enfin, c'est MMA, et qui disait qu'il avait perdu son ami la veille, alors qu'il avait vu et que son ami faisait le caïd, enfin, entre boxeurs, etc. Tu peux te dire aussi, on monte les muscles, nanana. Et il dit, je rêve, en fait, qu'il me parle et qu'il me le dise et qu'on en discute et qu'il n'y a pas de honte, en fait. Et il essayait de rétablir le message, c'était juste énorme aussi.
Mais bien sûr, mais on rappelle qu'il y a 20 enfants l'année dernière qui se sont suicidés à cause du harcèlement scolaire.
Deux par mois.
C'est épouvantable. On pense au jeune Lucas, on pense à tous ces enfants-là et on se dit, mais c'est pas possible, en fait. Ils avaient tellement encore à vivre. C'est un vrai fléau. Et la cruauté des enfants, elle est réelle. Elle est réelle. Et c'est un vrai sujet qu'il est très important de traiter à travers, pour moi, l'éducation, à travers aussi beaucoup de sensibilisation à l'école, beaucoup de prévention, justement. Parce que, oui, il faut éduquer les élèves harcelés à parler, mais il faut aussi, surtout, éduquer les harceleurs à prendre conscience de leurs actes et des conséquences.
Merci beaucoup à toi.
Merci à toi. Et
c'était
bravo.
C'était juste génial.
Bravo pour libérer la parole et tous ces engagements, c'est nécessaire.
Mais donner un maximum de solutions à un maximum de gens. Juste encore un tout petit dernière question.
Let's go.
Et là, ce serait plus pour le corps enseignant. Est-ce que tu as des idées qui pourraient les éclairer d'astuces, de choses qu'ils pourraient faire, mettre en place? Ou leur remonter le moral, ou peu importe, mais voilà, plutôt la solution pour les équipes éducatives.
Ouais, alors moi je sais qu'aujourd'hui on bosse beaucoup avec la tech dans le milieu éducatif. Je conseillerais aux enseignants de conseiller aux parents d'installer une application qui s'appelle Colibri, qui est topissime. Et le but, en fait, c'est que les parents aient un suivi de l'humeur de leurs enfants via cette application. L'enfant, en fait, il aura accès et pourra mettre, selon les jours, s'il s'estime triste, heureux ou quoi que ce soit. Et il y a ce côté un peu gamification qui fait que je pense que ça incitera les enfants à verbaliser différemment. Là où c'est peut-être difficile, tu vois, de mettre des mots sur des émotions, sur des humeurs, juste d'appuyer sur des emojis. C'est différent pour eux et je pense que même émotionnellement c'est moins lourd et ça permettra quand même d'avoir aux parents une vision et un suivi de comment va leur gosse. Donc déjà, je pense que ça, c'est innovant et ça peut être très intéressant à mettre en place. Et ensuite, le nerf de la guerre, et là, on n'est pas du tout sur l'innovation, c'est un maximum d'observation, ce qui est extrêmement difficile vu la gueule des classes aujourd'hui, où tu as des classes de 25-30 élèves, où d'avoir du personnalisé, c'est très très difficile. Mais encore une fois, la même chose que les parents, mais je leur apprends pas leur métier, je pense que les enseignants le savent, d'observer les signaux faibles, d'observer les enfants qui sont plus renfermés et de juste aller les voir et leur dire est-ce que tout va bien, tu sais que tu peux me parler et est-ce qu'il y en a avec qui t'as des soucis. Et je pense que ça soit parent ou enseignant, par contre la partie psychologie inversée, elle est très importante, c'est d'anticiper et de dire à l'enfant, tu sais, je ferai rien sans ton accord. Parce que je pense qu'elle est là, la peur numéro un. Il est là, le frein. C'est qu'ils ne parlent pas parce qu'ils ont vraiment peur que les adultes fassent des choses sans leur consentement et aillent parler aux principaux intéressés de la mauvaise façon et qu'ensuite, ça soit pire, en fait. On fera tout ensemble. Je te demanderai si tu es d'accord que je fasse ci ou ça. Et là, on le met en confiance. Et là, il peut parler. Donc, ce côté communication psycho. Et après, moi, j'ai envie de dire forcément, de toute façon, que les enseignants, bravo, parce qu'on en a besoin, c'est un métier qui est essentiel, qui est fait, j'aime à penser, pour la plupart par vocation, parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile, hein. On en parlait, toi et moi, en off, tu as été enseignant pendant 18 ans, et il y a peu de moyens qui sont donnés, il y a énormément souvent cet engagement humain d'avoir envie de transmettre un savoir, et de continuer tout simplement à avoir la même envie, la même énergie humaine, et de ne jamais oublier ce why-là, en fait, de vouloir transmettre finalement des valeurs, parce que... un enseignant, c'est presque plus qu'un parent dans la vie de l'enfant en termes de temps. En fait, il passe toute la journée avec. Donc, il y a la nécessité justement de transcender le programme scolaire et de transmettre justement toute cette éthique-là. Donc, je pense que bien sûr, les enseignants, ils sont essentiels. Ils ont un énorme rôle à jouer dans l'éducation émotionnelle des enfants. Et Dieu sait que l'éducation émotionnelle, c'est essentiel, je pense, pour la protection des harcelés et déjouer le mécanisme des harceleurs.
Moi, je rêve d'un cours d'éducation mentale.
Ouais, mais totalement, mais oui, mais oui, mais oui.
Vraiment, parce que c'est cool d'apprendre. Enfin, les tables, elles vont leur servir toute leur vie, mais il y a plein de compétences psychosociales qui vont leur servir.
Totalement, mais totalement. Et moi, c'est ce que je dis toujours. T'apprends à utiliser un compas que tu utiliseras probablement plus jamais dans ta vie. Mais par contre, est-ce qu'on t'apprend à gérer ton argent? Non, alors que tu utiliseras ton argent tous les jours de ta vie. Est-ce qu'on t'apprend l'intelligence émotionnelle? Non, alors qu'en réalité, dans la vie, même si t'as HEC, tout ce que tu veux, Sciences Po, si t'as pas d'intelligence émotionnelle, mais il va rien se passer en fait dans ta vie. C'est ouais, je suis d'accord avec toi 1000 fois. Et l'effet papillon, tu vois, l'intelligence émotionnelle, ce que tu disais, la force morale, enfin toutes ces notions là, c'est ce qui fait que derrière tu vas réussir à avoir des interactions sociales avec les gens de qualité et intelligente. Et ça, c'est pas en apprenant les maths ou que sais-je ou quoi. C'est, tu sors de l'école, en réalité, t'as pas tant les codes sociaux que ça. Et c'est dommage parce que dans la vie, si tu les as pas, t'as beau être le plus brillant, ça marche pas, quoi.
C'est ça. Les enseignants sont souvent malheureusement coincés dans le cadre. Sauf que moi, ce que j'ai envie de leur conseiller vraiment, c'est d'aller au bord, vraiment longer les cadres et faire un maximum de choses hors programme et protocole, parce que ça comptera pour toute leur vie. Et donc, c'est pas de la perte de temps.
Non. Et t'en penses quoi, toi? Parce que moi, je trouve que c'est une bonne idée de Gabriel Attal qui propose des cours d'empathie. Clairement. C'est bien. Moi, je trouve ça très bien, personnellement.
Il y a Solène qui bosse sur la thématique des soft skills, etc. Et clairement, le cours d'empathie, enfin, le développement de l'intelligence émotionnelle, ça devrait être un cours.
Ouais, à fond.
Et après, on se dit, bah, oui, mais il y a déjà tellement de choses à voir. Et je pense que ce programme, c'est une pression énorme sur les enseignants, sur les enfants, et ça abîme les choses. Parce qu'il y a énormément de choses à voir. Finalement, on survole beaucoup de choses. On va pas assez loin et ça fatigue tout le monde. Ça met une pression à tout le monde. Et ça fait partie du système. Mais peut-être parfois, il faut changer le système ou changer les règles.
Complètement. C'est une très belle conclusion.
J'étais pas censé...
Changeons les règles. Merci à toi, en tout cas. On a besoin de game changer, hein, complètement.
Clairement. Un tout grand merci pour ta venue ici, pour toute cette belle histoire qui donnera beaucoup d'espoir, je pense, à plein de gens.
C'est le but. Merci beaucoup à toi.